Les souffrances par rapport à la mort de Jésus, à l'expiration de Jésus, elles ne sont pas facultatives. Non, puisque je ne pense pas que Jésus soit. Il ne pouvait pas s'amuser quand même à souffrir si ce n'était pas indispensable, incontournable. Donc, ces souffrances de Jésus-Christ, tout comme sa mort, tout comme le sang versé de Jésus-Christ, participent à la même œuvre de salut. C'est ce que nous allons voir ensemble ce soir. Prenons la Bible. Nous commencerons par ce premier point, donc dans ce propos du jour, pourquoi Jésus a-t-il souffert? Nous commencerons par un premier point. Jésus a souffert dans son âme. Il a connu tristesse, angoisse. Prenez la Bible. Dans Matthieu chapitre 26 et 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Vous avez déjà vu les mots tristesse, angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il est précisé, je vous le lis, ne le cherchez pas, dans Luc, qui raconte aussi comment ça s'est passé. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est dans Luc 22, 44. Il a tellement connu l'angoisse, tellement lutté, il a connu un temps tellement compliqué, difficile, que même ses vaisseaux de sa face, de son visage, se sont rompus quelque part et le sang a coulé. Le sang, vous avez vu, il ne coule pas seulement sur la croix, mais dès Gethsémané, il y a du sang qui coule. Je lis aussi ceci dans la Bible. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, comprenez-la, dans les jours où il a pris un corps comme le nôtre, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est dans le cantique qu'on vient de chanter, n'est-ce pas? C'est dans Hébreux chapitre 5, les versets 7 et 8, pour vous qui prenez note, pour le relire tranquillement chez vous. Nous garderons donc dans ce premier point le fait que Jésus-Christ, dans son âme, il a connu la tristesse, il a connu l'angoisse. Ce n'est pas facultatif par rapport à l'œuvre du salut. C'est un tout merveilleux, l'œuvre du salut. Mais c'est composé de plusieurs facettes. La mort de Jésus-Christ, bien sûr, c'est une conclusion qui est fondamentale, suivie de la résurrection. Mais n'oublions pas, il a souffert. Une des premières souffrances, angoisse, tristesse, souffrance. Est-ce qu'il ne nous arrivait pas à nous aussi? Le Seigneur nous connaît. Il nous avait vus longtemps, puisque le plan du salut a été mis en place longtemps avant même la fondation du monde. C'est ce que la Bible dit. Il avait su que nous aurions des douleurs, de la tristesse, pour diverses raisons. Chacun, il sait. Connaît son histoire mieux que quiconque, mais le Seigneur connaît chacun notre histoire mieux que nous la connaissons nous-mêmes. Il y a des souffrances dont nous maîtrisons les causes, quelquefois des souffrances dont même nous ne maîtrisons pas les causes. Il ne vous est pas arrivé tout d'un coup d'avoir le cafard un matin. Vous dites, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi? Parce que l'inconscient travaille. L'inconscient enregistre des expériences et l'inconscient travaille. J'allais vous dire, mon frère, ma sœur, mon ami qui est ici, bien sûr, chacun de nous est décent Et ce n'est même pas nécessaire d'étaler toute sa souffrance, toutes ses angoisses. Bien sûr, nous savons que dans l'amour fraternel, nous pouvons nous entraider, nous pouvons prier les uns pour les autres. Mais en même temps, je pense que cette décence de chercher à trouver des solutions personnellement ou alors dans le cercle intime, je pense que c'est acceptable, ça fait partie de la sagesse, mais cela étant, vous n'êtes pas seul. Alléluia, vous n'êtes pas seul. Quelqu'un a connu la douleur, l'angoisse, la souffrance alors qu'il était Dieu le Fils. Mais pourquoi il en est passé par là? Parce qu'il fallait que nous ayons de lui la solution. Nous allons écouter ce que la Bible en dit, puisque la Bible, à partir de là, nous présente beaucoup de solutions sur ce point-là. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison, j'y viendrai plus tard. Le châtiment qui nous donne la paix. Ésaïe 53:5. Lisez, si vous voulez repenser plus tard à ce que nous allons voir ensemble ce soir, lisez Ésaïe 53. Je pense que c'est un bon concentré, c'est un bon résumé de ce que nous allons partager ce soir. Le châtiment qui nous donne la paix. À Gethsémané, l'angoisse, la tristesse, le cœur qui saigne, le cœur qui souffre, des cris. Ceux qui l'ont suivi à Gethsémané, les trois disciples, n'ont pas tout entendu. La Bible nous dit qu'ils se sont endormis. Ils se sont endormis. C'est Paul plus tard qui parle de ces cris et il ne les relate pas. Peut-être ils l'ont fait par pudeur, mais je voulais vous dire, le châtiment qui vous donne la paix, il est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a un baume qu'il veut répandre sur mon cœur, sur votre cœur. Il a payé la souffrance du cœur, les angoisses, cette souffrance psychologique qui quelquefois nous amène jusqu'à déprimer, jusqu'à connaître des moments de dépression. Si vous êtes passé par la dépression, n'en ayez pas honte. Le Seigneur l'a vu d'avance, dès avant la création du monde. Voilà pourquoi, dans le paquet du salut, il y a eu les angoisses et la souffrance intérieure de Jésus-Christ. Lisons quand même ensemble quelques bons versets là-dessus. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Le Seigneur nous dit à chacun à titre personnel, comme il le disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Vous avez vu ce possessif? Ma paix. « Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Un peu plus loin, chapitre 16, au chapitre 16 du même évangile, le verset 33, il leur dit ceci, et là, croyez-moi, et la Bible le dit, c'est très peu de temps avant qu'ils soient appréhendés pour être crucifiés. Je vous ai parlé ainsi, donc c'est chapitre 16, 33, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Voilà donc ce que le Seigneur nous propose, ce qu'il nous offre. Dans le paquet du salut, mon frère, ma soeur, mon cher ami, le Seigneur vous connaît. Quelquefois, on peut mouiller l'oreiller sans que la personne qui dort à côté le sache. Cette pudeur-là, elle n'est pas mauvaise. Quelquefois, on résout les choses seul avec Dieu. N'en ayez pas honte, mais seulement sachez ceci. Le Seigneur vous connaît. Le Seigneur vous voit. Il ne rate rien de ça, puisque lui, il ne dort pas. Quand à côté l'autre est endormi, lui, ses larmes, il les recueille. Et il sait où les présenter. Nous avons un intercesseur auprès du Père, c'est Jésus-Christ. J'allais donc vous encourager, vous dire que le Seigneur vous aime, que le Seigneur, il a souffert au fond de son âme pour que nous ayons sa paix. La deuxième chose que je voulais souligner avec vous, deuxième type de souffrance, Regardez, un petit verset, mais qu'est-ce qu'il nous parle ce petit verset? Matthieu 27, le verset 2. Matthieu 27, 2. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Après l'avoir lié. La Bible ne dit pas comment ils l'ont lié. Est-ce qu'ils l'ont entouré tout son buste d'une corde? Est-ce qu'ils ont lié seulement les mains? Puisqu'ils n'ont pas lié les jambes parce qu'il a marché. Ils l'ont lié. Pire encore sur la croix, ce n'était pas les liens. Puisque la Bible précise que Jésus a été percé, la Bible précise que Jésus a été crucifié. Ils ont percé ses pieds, ils ont percé ses mains. Et très sûr qu'on l'a appréhendé, qu'on l'a, il ne va pas bouger. La liberté, c'est fini, cher ami. Je me les imagine bien, bien, voilà, bien en colère contre lui, surtout les chefs des Juifs, parce qu'il disait, voilà, il vient, s'il continue comme ça, le sacrifice va s'arrêter. Est-ce que nous allons manger quoi, nous les sacrificateurs, et nos enfants, et nos femmes, etc., et notre honneur social, etc. Donc, ils avaient beaucoup de colère. Ils ont voulu vraiment l'entraver, être sûr de l'avoir. Lier les liens. Le Seigneur, dans le paquet du salut, il m'a vu dès avant la création du monde. Il vous a vu. Il a vu que nous serions entravés, liés. Ce n'est pas des liens visibles. Mais qu'est-ce que les passions peuvent nous lier? Qu'est-ce que les traditions des hommes, les traditions des peuples, des nations peuvent nous lier? On peut marcher, mais lié à l'intérieur. Le Seigneur le savait. Nous pouvons être liés par des vices, être liés par des choses que nous pratiquons, que personne ne sait, ou qui finissent par se savoir à force. Jésus-Christ, il a été lié. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. C'était dans le paquet, c'était prévu d'avance que le Seigneur Jésus payerait quelque part mes liens à moi. Alléluia. Nous pouvons aujourd'hui avoir la liberté. Le Seigneur le dit, voici la bonne nouvelle. Dans Jean chapitre 8, lisons-le ensemble. Tournez les pages de la Bible. Jean 8. Jésus parle à des Juifs qui sont intéressés par sa parole. Bien sûr, il y en avait aussi de moins intéressés, mais Jésus leur dit ceci. Jean 8, le verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Dans d'autres versions, « vous affranchira », c'est exactement pareil. Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Vous avez vu cet adverbe? Réellement. Je l'aime bien cet adverbe. Il n'a pas dit vous serez libre, il rajoute vous serez réellement libre. Pourquoi? Il savait ce qu'il allait accomplir à Golgotha. Il savait que le voile allait se déchirer. Il savait que moi, pécheur, j'allais, grâce à Dieu, grâce à l'Esprit Saint, qui allait porter dans mon cœur la parole que j'entends, j'allais réaliser que j'étais pécheur, que j'avais mes liens, moi qui vous parlais. Juste à la fin de mon adolescence, à peine j'étais presque majeur, j'ai été un bon alcoolique. Un bon alcoolique. Et mon père, je veux dire, avec, à cause de ces guerres qui se sont passées en Afrique centrale, dans ces pays, mon père avait fui le pays. Et moi, peut-être pour me consoler, bizarrement, j'ai appris à boire de l'alcool, à picoler, excusez-moi l'expression comme on dit. Et quand mon père est revenu, il ne me reconnaissait pas. Mon fils que j'avais laissé tout jeune ado, qui était très sage, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'arrivais pas à me passer de l'alcool, puisque quand je n'en avais pas bu, j'étais mal, je me sentais malheureux. J'allais à la maison, les autres parlaient, ils m'envoyaient la tête courbée, je n'étais pas content. Et c'est lui qui, le lendemain, me donnait un peu d'argent. Mais tu ne t'enivres pas, bois quand même un peu, mais sois sage. Eh bien, il n'était pas toujours sage. Jusqu'au jour où des missionnaires suédois ont prêché l'évangile, j'étais dans un lycée. Dans ce lycée, j'étais en pensionnat, puisque c'était très loin. Il n'y a pas beaucoup d'écoles dans ces pays, c'était loin. Et là, on a prêché l'évangile. Au début, je m'en moquais, jusqu'à réaliser que j'étais malheureux, que ça ne marchait pas. J'avais quand même de bonnes notes en classe. Je n'étais pas parmi les plus bêtes. Ça marchait bien là-dedans. Mais quelque chose me tenait. J'étais pris par quelque chose. Et ça m'énervait énormément. Et j'en pleurais quelquefois amèrement, jusqu'à comprendre que la solution, finalement, et s'il était dans ce qu'il me prêche là? Et j'ai tendu l'oreille. J'ai tendu l'oreille au témoignage. J'ai tendu l'oreille au chant de chorale. Un bon jour, moi aussi j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas beaucoup de choses, mais je t'offre mon cœur. J'ai demandé au pasteur de prier pour moi. Et je vais vous dire quelque chose qui s'est passé. Là, je ne peux jamais oublier ça. Là où j'arrivais devant le bistrot, où c'était tellement alléchant que ça ne marchait pas, que je ne pouvais pas passer à côté, et tout d'un coup, on dirait que l'odeur, ça s'était inversé, ça sentait vraiment mauvais. Là, ça m'a beaucoup marqué. Je n'ai pas dû beaucoup combattre. Si un jour, quelqu'un vient chez moi, je pourrais lui sortir un petit apéritif. Mais il m'arrive d'oublier qu'il est dans la maison. Si j'ouvre une bouteille de vin, je ne suis pas obligé de la boire. Je peux boire un demi-verre, oublier la bouteille un peu, quelques jours dans la maison. Donc, j'ai été libéré de ma prison spirituelle. C'est quelque chose de spirituel. Avant que ça prenne le corps, ça prend d'abord l'esprit. Le Seigneur savait que nous avions nos liens. Chacun peut connaître le sien. Pas besoin de me le raconter. Il y a quelqu'un qui a payé ça. Alléluia. Quelqu'un qui a été lié. Vous pouvez tout lui dire. Vous pouvez tout lui raconter. Vous pouvez pleurer à ses pieds. Lui ne se moque pas de vous. Au contraire, il va vous dire, mon enfant, ça y est, donne-moi la main. Écoute-moi bien. Reste en contact avec moi. Ne me lâche pas. Quelque chose va t'imprégner. Quelque chose va couler de moi et rentrer en toi. Tu vas t'étonner. Le Seigneur, il a fait. C'est pas pour rien qu'il a été lié. Les liens font partie du paquet du plan du salut pour nous. Le Seigneur soit béni. Nous pouvons être libres. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement, réellement libres. Alléluia. Un troisième point, Jésus, il a souffert aussi dans son corps. Nous avons vu d'abord dans son âme. Il a été lié, privé de liberté. Jésus aussi a souffert dans son corps. Dans les récits, vous avez souvent lu les récits de l'Évangile, que quand les Juifs l'appréhendent, avant même de l'amener chez Pilate, ils commencent à le battre. Je lis ceci dans la Bible, « Quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. » Je le lis dans Marc 14, verset 65. Des coups de poing, des gifles. Bien entendu, quand Pilate bâcle, si j'ose dire, la condamnation, parce que, osons le terme, il a été un peu lâche quand même, parce qu'il avait la conviction que cet homme n'avait commis rien de mauvais, même qu'il s'en lavait les mains. Je suis... Il se lavait les mains disant, je suis innocent du sang de cet homme. En tout cas, il a dit, je reformule, on ne va pas tout lire. Il a vite compris que cet homme, il était victime de la jalousie notamment des principaux sacrificateurs. Et il fait ceci. Je me suis demandé pourquoi il a fait. Il le fait battre de verge, quand même. Il aurait pu dire, écoutez, je m'en lave les mains, vous le prenez, vous allez le crucifier où je ne vois pas, je reste chez moi. Mais avant de le leur donner, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait battre de verge. Vous voyez ça? C'est complètement illogique. Mais dans la logique du Seigneur, Dans la logique du plan du salut que Dieu a préparé dès avant la fondation du monde, ça devait arriver. Jésus-Christ, dans son corps, il a été meurtri. Il a été frappé. On met une couronne d'épines. Et non seulement il a une couronne d'épines, je lis dans la Bible qu'ils ont pris un roseau et ils frappaient où ça? Sur la tête. Il y avait déjà la couronne d'épines, il frappe sur la tête. Vous vous imaginez ce que ça signifiait? Que chaque fois que l'on frappait, ça rentre. Ceci, ce n'est pas pour nous apitoyer sur ce qui est arrivé au Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il cherche. En nous enseignant ceci, c'est pour que nous puissions réaliser ceci. Quand la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia! Vous le trouverez dans Ésaïe 53. Lisez-le s'il vous plaît, Ésaïe 53. C'est un bon concentré là. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Le Seigneur, il nous avait vus. Il savait ce qui nous arriverait. Il savait que la maladie est arrivée. Ce n'était pas parmi les choses prévues que Dieu avait voulu pour l'homme. Mais avec le péché est venue la malédiction. Ce point, je le toucherai rapidement aussi avant de terminer. Le Seigneur nous connaissait. Il a vu que sans lui, vous pouvez me dire, mais attends, mais je suis peut-être pas très bien portant. Moi qui vous le dis, je peux vous dire, et si vous me demandez dans un instant, est-ce que vous êtes en très bonne santé, je vous dirai, relativement, je souffre un peu de ceci, de cela. Mais je peux vous dire ceci, et nous le savons très bien, si le Seigneur fermait les yeux un seul instant, s'il nous livrait à l'ennemi de notre âme et de notre corps, de notre personne, si Satan avait un seul instant le droit de faire ce qu'il veut de notre corps, les choses se passeraient autrement. Vous en êtes sûr? Les choses ne se passeraient pas comme elles se passent là. Il se passerait autre chose. Donc, le Seigneur est bon. Le Seigneur Jésus-Christ, dans les choses qu'il a payées, il a payé aussi ce qui nous fait mal dans notre corps. Nous sommes malades, n'oublions pas que le Seigneur, il a payé pour notre guérison. Si on donnait un instant un témoignage à quiconque sait qu'à un moment le Seigneur est intervenu dans son corps, je sais qu'il y en aurait qui viendraient défiler ici et nous dire des choses merveilleuses, des choses glorieuses. Mais en même temps, je dis, prenons garde. Paul, qui a beaucoup prié pour d'autres, à un certain moment, on ne sait pas ce qu'il appelle une charde dans son corps. Quand il dit, j'ai prié trois fois pour que le Seigneur, me délivre. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Faisons attention, mes frères, mes sœurs. Puisque souvent, on peut perdre la foi si on ne fait pas attention, si on n'a pas cet équilibre. Il y a des choses où c'est toujours oui. C'est impossible que Dieu, à un cœur qui dit « Seigneur, sauve-moi, aie pitié de moi, pardonne-moi mes péchés », c'est impossible que le Seigneur dise « Non, je ne te pardonne pas ». Il ne va pas vous dire « Ma grâce te suffit », ça serait complètement contradictoire. Le Seigneur délivre le pécheur à l'instant. Alléluia, béni soit le Seigneur. Mais en même temps, le Seigneur peut permettre des épreuves. Un jour, quand nous serons face à face, je ne pense pas qu'il aura beaucoup à s'expliquer. Quand nous allons regarder sa face, je pense qu'il y a beaucoup de questions, de points d'interrogation qui vont s'effondrer d'un coup. On n'aura pas beaucoup l'interroger. Mais en attendant, il ne nous explique pas tout. Quelquefois, il nous dit pourquoi Job, à la fin de ses souffrances, a su dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil, mes yeux t'ont vu, mon œil t'a vu. » Donc, ce que j'ai souffert, ce que tu as permis, puisque c'est le Seigneur qui l'avait permis dès le départ, disait le livre de Job. Le Seigneur avait permis des choses, au bout du chemin, Job en a tiré une grande expérience. Je pense que jusqu'à sa mort, il n'a pas oublié, il a marché dans cette expérience de faire confiance dans le Seigneur, qu'il vente, ou qu'il pleuve, ou qu'il fasse beau temps. C'était quand même une parenthèse nécessaire. Nous ne nous sommes pas troublés quand nous avons demandé notre guérison et que le Seigneur peut nous répondre « Non, je ne le fais pas » ou « Non pour aujourd'hui ». Ça peut attendre un jour. Vous voyez, on peut demander des choses au Seigneur. Il ne le fait pas quand nous le demandons. Un temps plus tard, nous réalisons ces choses. Alléluia. C'est pas seulement ça. En mourant sur la croix, Jésus a pris autre chose. J'y viens tout de suite. Mais regardez quand même. Vous vous imaginez pourquoi ils n'ont pas assassiné Jésus? Toutes ces 3 années, qu'est-ce qu'ils étaient très mécontents, en colère? Ils auraient pu un jour prendre une flèche, un arc, dire « on va le tuer ». Ils auraient pu l'assassiner sans qu'il passe par ses souffrances. Mais non, il est passé par des souffrances et non seulement il est mort. Attendez, mais vous avez vu que souvent on lapidait les gens? Souvent la lapidation était une des grandes punitions dans son pays. On tuait les gens par l'épée. Hérode en a tué par l'épée. Et pourquoi on n'a pas pensé lui couper la tête? Le mettre sur une croix. Là, c'est bon qu'on lise quand même ce verset. Deutéronome. Vous voyez, il n'y a pas de, hasard. Deutéronome, chapitre 21, verset 22. Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché, passible de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'ensevelira le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Vous avez vu ça? On l'a mis sur le bois. Je pense que les Romains, je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup lu l'Ancien Testament pour comprendre ce qu'ils faisaient. Les Juifs, eux, qui ont dit « crucifie-le, crucifie-le », ils savaient ce qu'ils faisaient. Non seulement qu'ils meurent, mais qu'ils meurent maudits. Le Seigneur a su. Il nous avait vus. Il avait vu que non seulement quand nous serions dans le péché, nous ne serions pas seulement sales spirituellement, mais que la malédiction vient avec le péché. Non pas la malédiction, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses là qui se font dans le monde. On voit des chrétiens même qui ont peur du vaudou, des choses un peu bizarres, obscurantistes. Mais la malédiction dont il est question, c'est que si le péché rentre en nous, nous sépare de Dieu, qui est la source de la bénédiction, la Bible est claire, si vous le lisez vers la fin du Deutéronome, comment Moïse a rappelé au peuple, si vous n'obéissez pas au Seigneur, vous serez maudits dans tout, la malédiction vous atteindra et elle vous poursuivra. Mais le Seigneur, il avait pensé à ça aussi. Dans le paquet du plan du salut pour nous, Jésus-Christ a été pendu comme par hasard sur un bois, comme par hasard. Aujourd'hui, que nous dit la Bible? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'est écrit dans Galates 3 et verset 13. Et je lis dans Éphésiens 1, 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alléluia! Le Seigneur, non seulement il a payé nos péchés, mais dans ses souffrances, il a pris toute la malédiction qui pouvait être destinée à tout pécheur, moi inclus. Je me pointais du doigt avant de le pointer aux autres. Aujourd'hui, ne marchez pas dans la peur. Ne marchons pas, je le dis puisque je sais que ça arrive, dans la peur des obscurantismes, la peur du vaudou, la peur de la sorcellerie, la peur de ce qui lisait nos mains et qui peut prédire des choses terribles. Laissons ces choses, nous étions là-dedans autrefois, aujourd'hui nous sommes sur le territoire, sur la patrie de la bénédiction. Acquise par qui? Par Jésus-Christ, parmi les souffrances qu'il a endurées à notre place. Je terminerai par ceci. Je pense que le summum de toutes les souffrances que Jésus a endurées, il le verbalise en ceci. Marc, chapitre 15, verset 34. Ici, il est dit, À la neuvième heure, souvenons-nous que c'est à partir de la troisième heure que Jésus est crucifié. Donc il a passé 6 heures. Ce n'est pas minuté, mais autour globalement 6 heures sur la croix. À la neuvième heure, c'est donc, il ne reste même pas une heure, puisque dans l'heure, il mourait. À la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloï, Eloï, lama sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pendant un moment, seul le Seigneur sait combien de minutes ça a duré. Mais pendant un moment, Jésus-Christ, qui est un de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, vous vous souvenez, il avait dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » N'est-ce pas? C'est la Bible qui le dit. Un de la Trinité. Avec son Père, ils sont un, indissociables. Voilà que pendant un moment, il lui arrive ces choses terribles, terriblissimes, le top de toute souffrance de Dieu le Fils, où la communion n'est pas là. Où le Seigneur, son Père, qui était en lui, puisque jusque sur la croix, il était en lui, même en souffrant, pendant un moment, « mon Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Ce que nous connaissons quand nous péchons, puisque Dieu ne cohabite pas avec le péché, quand le péché entre dans l'être de quelqu'un, l'Esprit Saint en sort, ça ne cohabite pas. Non pas que l'Esprit Saint lâche, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a été patient, il nous a suivis des années et des années, il a été bon le Seigneur. Non pas en nous, mais autour de nous, à côté, devant, derrière, essayant de nous montrer le chemin, au moyen des témoignages, de la parole, de la prière de nos parents, de nos amis, de ceux qui nous connaissaient. Le Seigneur a été patient. Je sais que ma mère y a été pour beaucoup dans tout ça. Je ne peux pas l'oublier. Elle m'a précédé dans la gloire, mais que le Seigneur la bénisse. Elle est bénie de toute façon. Hein? Nous ne prions pas pour les morts, c'est une parenthèse. Hein? Le Seigneur, il a permis ceci pour que ce que nous éprouvons quand nous sommes séparés, souvent on ne s'en rend pas compte. Celui qui dort dans le péché ne s'en rend pas compte. Mais quand nous entendons surtout la parole, quand l'Esprit Saint commence à parler à notre cœur, alors nous voyons l'abîme. L'abîme est franchissable humainement qui nous sépare de la beauté du Seigneur, de sa sainteté, de sa bonté. Et c'est que nous sommes sales. Le Seigneur a connu ça. J'allais vous dire, mon ami qui est ici, qui vous dit, qu'est-ce que je fais donc? Le Seigneur a payé ça. Il aurait pu mourir sans connaître ça. Mais le Seigneur a voulu que dans le paquet de l'œuvre du salut, il connaisse son temps. Et un jour, je pense que je lui demanderai combien de temps ça a duré. Il m'a dit, est-ce que ça a duré combien de temps? Est-ce que ça a duré combien de minutes? Ce moment terrible. Tout le temps que ça peut avoir duré des années en ce qui vous concerne, ça peut avoir duré des mois, je ne sais pas, le Seigneur le sait, mais il est clair que si Jésus-Christ a connu ça, il a voulu le connaître à votre place. Vous pouvez aujourd'hui être dans la communion avec le Seigneur. Je vais terminer par ce passage en Éphésiens. Prenez la Bible et tournez les pages en Éphésiens. C'est Éphésiens chapitre 2 et verset 1er. Après les Galates, nous avons Éphésiens. À partir du verset 3. Éphésiens chapitre 1er. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a rendus à la vie en Christ, par la grâce en ce moment-ci, en Jésus-Christ, en communion avec lui. Il a été séparé d'avec son Père pour qu'aujourd'hui nous puissions être en Jésus-Christ. Pouvoir être sous sa main posée par nous. Je n'oublierai pas cette expérience. Ne la faites jamais. Ne la faites jamais. En Afrique, dans ce pensionnat, nous avions des fils électriques qui pendaient à l'extérieur. Alors, quelquefois, c'était gratté et il suffisait de toucher et on avait le courant électrique qui vous traversait. Heureusement, ce n'était pas beaucoup de voltage. Alors, un jour, j'avais des chaussures. Nous avions appris en physique qu'avec certaines chaussures, le courant ne vous prend pas. Je pensais que le courant reste à l'extérieur. Eh bien, j'ai touché, j'ai dit effectivement, rien ne se passait. Mais, quelqu'un m'a touché. Il n'avait pas les chaussures comme les miennes. Et alors là, j'ai senti le courant électrique, et c'était la dernière fois que je l'ai fait, j'ai pu recommencer. Juste un exemple, pour nous dire que quand nous allons dire « Seigneur, c'est à toi que je viens. Je veux, Seigneur, que ce que tu as souffert, je puisse en recevoir le bénéfice. Seigneur, je me place sous ta main. Touche-moi avec ta main. » Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas s'arrêter comme ça. C'est que ce qui est de sa personne coule en vous. Et bien, ça vous rentre, ça rentre, ça s'installe. Vous ne vous en rendez même pas compte quelquefois, vous ne ressentez pas grand-chose quelquefois. Mais si vous demeurez, demeurer, ça signifie, Seigneur, je vais me garder, gardez-moi. Je ne peux pas me garder par ma nature, mais je vais m'imprégner de ta parole. Je veux rester dans la prière. Je veux, Seigneur, rester vraiment sous ta main. Il va se passer quoi? Quelque chose coule en vous. Voilà, ça s'installe à vous. Ça vous imprègne. Et vous êtes étonné. Vous n'êtes plus la même personne. Le Seigneur a souffert. Il a souffert dans son âme, dans sa chair. Il a été lié, il a été pendu sur le bois, on l'a crucifié. Heureusement, il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant. Est-ce que vous le croyez? Croyez-vous que c'est pour vous? Nous allons fermer les yeux et nous allons nous incliner devant celui qui a payé tout ça. Celui qui a tant souffert. Béni sois-tu, Seigneur. Je vais te bénir de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Je sais que tu es ici présent. Je ne suis pas un grand orateur. Mais ce qui importe, Seigneur, c'est ta présence ici. Seigneur, nous repensons à ce que tu as fait, mais mieux encore, ce qui est merveilleux, c'est que tu as le regard sur nous. Tu es présent et ta main est tendue, Seigneur. Tu veux toucher notre être. Tu veux, Seigneur, que ce que tu as gagné pour nous, ça soit nôtre. Ta consolation, ta guérison, ta liberté, Seigneur, ta paix, ta joie, tu veux qu'elle soit nôtre aujourd'hui, ta pureté, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, avec mes amis, je fléchis le genou et je te bénis pour Golgotha. Merci pour ta souffrance, merci pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci car tu es présent pour guérir, pour sauver. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ.